un peu pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le 30 mars 2026, à la librairie Quilombo, dans le 11e arrondissement de Paris, se tenait la présentation du nouveau livre de Nejib Sidi Moussa, Le spectre du colonialisme, aux éditions L'Échappée. Dans cette émission, nous allons entendre la présentation de cet ouvrage fait par Nejib Sidi Moussa et une partie des échanges qui ont suivi cette présentation.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Quilombo. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est une librairie qui a vu le jour en 2002 avec pour but de faire connaître la littérature libertaire, ainsi que la critique sociale et plus particulièrement une critique que l'on pourrait qualifier d'anti-industrielle. Ici, on essaye de faire la part belle aux petites maisons d'édition, aux maisons d'édition indépendantes, et on essaye de tordre le cou à l'idée qu'en librairie, les choses devraient aller rapidement et qu'un livre en chasserait un autre. Donc, il n'est pas rare qu'ici, les livres reste sur table pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, nous recevons Nejib Sidi Moussa. Donc, tu es docteur en sciences politiques et tu es enseignant d'histoire-géographie au lycée. C'est bien ça ?
Au collège.
Au collège. Tu as publié notamment Algérie, une autre histoire de l'indépendance au PUF en 2019. Histoire algérienne de la France au PUF également en 2022. Et La fabrique du musulman chez Libertalia en 2017. Ouais. Un petit essai de critique sociale très, très stimulant. Et nous t'avions reçu en 2023 pour présenter Le Remplaçant, paru aux éditions L'Échappée. Et paru également aux éditions L'Échappée, Le spectre du colonialisme, qui est le livre que tu nous présentes aujourd'hui. La première question que je souhaiterais te poser, Nejib, c'est pourquoi ce titre-là qui fait référence à l'incipit bien connu du manifeste du Parti communiste, un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme, toutes les puissances de la vieille Europe, etc. etc.
Bah, tu as répondu à la question. Je salue mon éditeur, Cédric. C'est grâce à lui que le livre a pu voir le jour. C'est une prise de risque. C'est important aussi de savoir sur qui on peut compter dans ces temps qui, par bien des égards, peuvent paraître inquiétants. Alors, comme tu as répondu à la question, c'est compliqué en fait d'ajouter quelque chose de plus. Le titre, c'est toujours compliqué en fait. On est pris par des contraintes. Alors, c'est pas des contraintes commerciales, hein, c'est la carte de visite, le titre, comme la couverture, hein, qui est très, et la maquette, etc. qui est très réussi, là aussi. Hein, je dis ça, c'est pour bien qu'il y ait un deuxième tome l'année prochaine qui sorte. Mais plus sérieusement, quelle était la formule, quel était l'intitulé qui pouvait résumer et la démarche et le contenu du bouquin, et puis aussi donner une tonalité de l'époque, à la fois du moment présent. Alors, évidemment, le livre n'a pas été écrit en sachant ce qui allait se passer au moment de sa sortie. Mais c'est un livre, on aura peut-être dessus, dont la fabrication, les textes qui le composent, ont quand même traversé les dernières années, la dernière décennie, où la question du colonialisme, ou les débats, ou les polémiques, les controverses souvent stériles d'ailleurs autour du passé colonial, autour du lien entre colonialisme et racisme, non seulement se sont enracinées et se sont ancrées dans les débats, et en même temps sans qu'il y ait véritablement de dépassement ou de possibilité d'avancer de façon positive ou progressive, ou de répondre d'une manière constructive, je dirais, à ces questions-là. Donc le livre aussi, il répond à une forme d'insatisfaction qui n'est pas que personnelle, qui n'est pas que subjective, justement sur la manière dont ces questions extrêmement importantes et essentielles ont été posées au cours des dernières années, aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau militant, au plan journalistique, et puis on va dire plus largement dans le débat public. Et donc c'est une contribution, encore une fois modeste, hein, mais une contribution au débat, à la discussion, et qui sera utile à ceux qui voudront bien s'en saisir.
Quel est le lien ?
Le livre est composé en 20 textes ou 20 chapitres qui ont été écrits au cours de la dernière décennie. Donc ça va du début des années 2010 à l'année dernière. Ça permet à la fois de voir la façon dont ces débats ou dont ces questions ont évolué dans leur traitement, dans la manière dont ces questions ont été posées. En précisant aussi peut-être une chose, c'est que le livre, s'il a évidemment une dimension ou une intention qui se rattache à la critique sociale ou à la théorie critique, prétention sans être non plus prétentieux, c'est des textes qui ont été élaborés pour l'essentiel, je crois 90% à peu près, dans le champ académique. Il faut savoir que j'avais quand même à l'origine un vague lien avec l'université de par ma formation. Un petit rappel, la question du colonialisme et de l'anticolonialisme, je ne vais pas vous sortir la carte, je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais je travaille dessus, sur ces questions, depuis 20 ans environ. Depuis le moment où je me suis engagé dans un parcours de thèse, c'était en 2007, et puis un petit peu avant, vous savez comment ça se passe les études, master, etc. Je travaillais déjà sur cette question-là, en particulier évidemment sur la question de l'anticolonialisme, le mouvement de Messali Hadj, et surtout, ça a été un des fils rouges en réalité de ma réflexion, et même un petit peu plus, le lien entre anticolonialiste et mouvement ouvrier révolutionnaire français. Ça a toujours été ça, ces liens, ces connexions, les ambivalences, les ambiguïtés, les aveuglements aussi, les illusions, le ressentiment. C'est quelque chose qui traverse mes travaux, donc d'abord ma thèse, mes travaux universitaires, académiques au sens strict. Donc ma thèse, tu as fait référence tout à l'heure à Algérie, notre histoire de l'indépendance, qui sort en 2019. Mais qui est en fait un extrait de ma thèse. Les textes qui sont regroupés dans le spectre du colonialisme, ce sont des textes qui à la fois accompagnent ce cheminement, cette réflexion sur un objet, d'accord, et puis aussi un élargissement et un dépassement. C'est ce qui a été fait dans d'autres bouquins, notamment Histoire algérienne de la France, où j'ai voulu volontairement insister sur la centralité refoulée de la question algérienne. C'était une forme de pied de nez, mais pas sans sombrer non plus dans la provocation, dans la caricature. C'était que à la fois, évidemment, je comprenais qu'il y avait une question coloniale qui se posait en France, mais que cette question coloniale, elle était algérienne pour l'essentiel. Encore une fois, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, donc aux marges du champ politique que j'avais traité pour ce bouquin, donc à la fois la gauche anticoloniale et ses héritiers, et puis la droite impérialiste et puis ses héritiers, il y avait une obsession algérienne, il y avait une centralité algérienne. Voilà. Ça, je l'ai posé dans un bouquin, donc j'estimais que ce n'était pas la peine de revenir dessus, mais il y a toujours des liens, vous savez, avec des questionnements qu'on a pu poser et des jalons qu'on a pu placer à un moment donné. Là, le lien, encore une fois, c'est la question du colonialisme, donc ces spectres, comment est-ce que ça hante en réalité la culture politique française, comment c'est une des matrices du débat, notamment en rapport avec la question identitaire, etc. Des deux côtés de la barricade, je dirais, d'un certain point de vue, question qui est aussi essentielle à mon sens et que je ne mets pas en opposition et encore moins en concurrence avec une question essentielle pour la société française, européenne et même au-delà, la question de la persécution et l'extermination des Juifs en Europe, donc la Shoah. C'est deux questions qui sont extrêmement importantes pour rendre compte, justement, me semble-t-il, de ce qui se joue aujourd'hui dans la façon dont on pose des questions d'un point de vue culturel, politique, etc., et en particulier concernant le racisme et tous les débats qui entourent cette question qui est importante et qui aujourd'hui prend des dimensions, encore une fois, assez inquiétantes. L'unité, c'est ça, c'est le rapport à la question coloniale qui est là en arrière-plan ou alors qui ressort de façon un petit peu délirante par moment dans l'actualité, dans la vie politique, dans la vie intellectuelle. C'est la France, en fait. Je parle de la France. Hein, je ne parle pas de l'Algérie, je ne parle pas d'un autre pays, je parle de la France. Pour comprendre ce qui se joue en France, une des clés, c'est sans doute pas la seule, c'est aussi le rapport au passé colonial. Et c'est la manière dont cette question, dont ce passé, soit est nié, soit il est relativisé, soit va prêter à des formes de délire aussi, ou au contraire va servir à rendre compte de questions tout à fait pertinentes, donc non seulement le racisme, mais aussi d'autres questions.
C'est un livre qui est très intéressant. Hein. Moi, je retrouve en partie le Nejib de la Farid du musulman.
Je pense que, notamment dans la conjoncture actuelle, me semble-t-il, c'est aussi de tisser des liens avec des gens avec qui on n'a pas réussi à discuter ces dernières années. Alors, je ne dis pas que le livre il a été fait pour ça. Je ne dis pas que je vais caresser dans le sens du poil des gens qui n'ont pas toujours été très sympathiques ces dernières années non plus. Ou même moi, je n'ai pas toujours été très sympathique avec eux. Mais à un moment donné, il faut aussi faire preuve de cohérence. Et c'est pas parce qu'on est on traverse une période inquiétante qu'il faut brader aussi son exigence intellectuelle et critique. Sinon, on passe du compromis à la compromission. Et c'est pas mon intention. Hein. Alors là, vous pouvez me faire confiance pour ça. Ce que j'ai remarqué quand même avec ma petite expérience, hein, qui est ce qu'elle est, c'est que parfois on m'identifie, selon certains milieux, à un livre. On m'identifie à un livre. Alors soit je vais avoir des lecteurs qui sont très attachés à la Fabrique du musulman, soit j'en ai d'autres qui sont très attachés à ce que j'ai écrit avec soit Histoire algérienne de la France ou Algérie, notre histoire de l'indépendance. Mais rarement on fait le lien, en fait, avec tout ce que j'ai essayé de faire ces dernières années. Il y a une cohérence, en fait. C'est justement ce rapport à la démarche critique. Moi, je suis critique de tous les nationalismes, je fais pas le choix. Mmh. Je suis critique de toutes les falsifications, je fais pas le choix entre les falsifications. Pour moi, peu importe l'origine ou la situation particulière de tel racisme, de tel nationalisme, de tel colonialisme, c'est la même chose, c'est la même horreur. Pour le coup, il n'y a pas de choix, pas d'hiérarchisation de mon côté. J'exècre avec la même force l'exploitation et la falsification.
Enfin bref, donc c'est un livre, celui-ci très intéressant, qui ne laisse rien passer, ni évidemment à la droite réactionnaire qui cache mal son racisme ou sa xénophobie derrière des totems comme la laïcité, ni à une certaine gauche qui s'est tournée vers les analyses états-uniennes et qui ont adopté la grille de lecture outre-Atlantique des Identity Politics et qui étouffe la question sociale sous la question soi-disant raciale. Et tu cherches à renouer avec la tradition révolutionnaire que l'on peut trouver chez les marxistes hétérodoxes, les conseillistes, chez les anarchistes. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que je...
Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. C'est... je pense que t'as... c'est ça. Encore une fois, c'est ce que j'ai essayé de faire au cours des dernières années. Encore une fois, en toute modestie, avec les forces qu'on a, avec l'énergie, avec le temps qu'on a, avec les espaces aussi qui s'ouvrent. Parce qu'il n'y a pas eu 10 000 espaces non plus qui sont ouverts ces dernières années. Alors il y a eu une part de malentendus, il y a une part de sectarisme, il y a sans doute des intérêts qui ont été un peu gênés également par ce que j'ai essayé de faire, mais avec d'autres. Je n'ai jamais été seul dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai pensé. J'ai plutôt essayé de jouer le rôle de passeur. J'ai jamais prétendu réinventer la science. J'ai jamais prétendu ne pas avoir de prédécesseur, ne pas avoir eu de maître au sens classique. Je suis plutôt dans une forme de continuité, même si c'est dans l'hétérodoxie, même si effectivement je ne me suis pas enfermé dans des chapelles particulières, à la fois au niveau disciplinaire, c'est pas pour dire ah, c'est un super bouquin universitaire, redonnez-moi une place s'il vous plaît, c'est pas ça. C'est que la plupart des textes, encore une fois, ont été élaborés, écrits dans des contextes de recherche, même si j'ai toujours été un marginal dans la recherche dans l'université française, mais il se trouve qu'on a pu m'inviter par moments à des colloques, à des conférences, pour justement présenter ma réflexion, qui était parfois audible, ou écoutée, ou comprise, ou respectée par certains universitaires. Il ne s'agit pas de les mettre tous dans le même sac. Pour bien faire comprendre que ce que j'ai essayé de faire, même si ça a pu paraître un peu isolé, un peu marginal par moments en France, en réalité ne l'est pas véritablement. Parce qu'il faudrait plutôt réfléchir à la façon dont circulent les idées, comment est-ce qu'on va mettre en avant telle ou telle thématique, comment elle va être abordée. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça ce soir, mais je dirais qu'à l'échelle globale, parce que c'est le débat d'idées se joue aussi à l'échelle globale, c'est qu'à la fois, moi, j'ai pu être critique ou réticent à l'égard d'une forme d'importation, traduction, plaquage un peu facile de certains débats qui pouvaient se jouer ailleurs, mais je ne l'ai pas fait dans un esprit chauvin, d'accord ? Mm-hmm. C'est parce que j'étais aussi un peu au courant, sans être un spécialiste, de ce qui se jouait ailleurs. Parce que je savais que, bah, notamment aux États-Unis, mais pas que, il y avait des débats au sein de l'université, au sein de la gauche, de la part de personnes qui se réclament du socialisme ou de l'antiracisme, et qui prenaient pas pour argent comptant ce qui nous était vendu aujourd'hui comme étant le nec plus ultra de la théorie critique. J'ai des liens avec certaines personnes qui sont outre-Atlantique, qui sont outre-Manche, qui sont aussi outre-Méditerranée, d'accord ? On n'est pas 10 000, on n'est pas 10 millions, mais on essaie de tenir, en tout cas de rester fidèle à une forme de rigueur. Et encore une fois, s'il y a des malentendus, je pense qu'ils peuvent être dépassés uniquement par l'écoute, par le débat, par la confrontation, libre et raisonnée. Après tant pis, hein. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Hein.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Et on continue avec la présentation du nouveau livre de Nejib Sidi Moussa, Le spectre du colonialisme.
J'insiste bien sur le fait que le bouquin n'est pas fait pour lancer de je ne sais quelle polémique stérile. Il n'est pas non plus fait pour créer des malentendus ou me réconcilier avec des personnes avec qui c'est un petit peu compliqué, mais c'est aussi pour parler à tout le reste. Il y a plein de personnes qui, de façon tout à fait légitime, notamment chez les plus jeunes, il y en a un petit peu ce soir, il y en a plein d'autres qui ne sont pas là ce soir. Je dis ça parce que le fait de relativiser aussi l'importance qu'on pouvait donner à certaines micro-polémiques qui n'intéressent que 10 personnes à Paris, le fait d'enseigner à des jeunes, à des collégiens, à des lycéens, alors j'avais enseigné avant à l'université, en tant que vacataire, etc., bah ça nous remet aussi les pieds sur terre. Ça nous permet aussi de nous questionner sur ce qui est cohérent ou pas dans notre manière d'aborder des questions qui peuvent être simples, qui peuvent être compliquées, et de pas toujours être dépendant de telle ou telle mode, de telle ou telle personnalité, de telle ou telle déclaration, parce que tu sais, comme moi, c'est un petit peu comme ça que ça marche aussi dans certains milieux. T'as vu ce qu'a dit un tel, t'aimerais pas réagir sur tel texte et tout. Souvent, c'est pas toujours intéressant. Souvent, on s'en fiche, en fait. Et puis, on a d'autres priorités, on a d'autres urgences. On est pris par la vie, par des drames, par des joies, etc. Et puis, encore une fois, hein, par des enjeux, aujourd'hui, personne ne peut s'exonérer d'une forme de bilan ou d'autocritique. En gros, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour éviter le drame et la catastrophe ? Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est la question qu'on a tous se poser à un moment donné.
Des textes qui est par-delà l'anticolonialisme, Guy Debord. J'aimerais te poser une question. Comment les situationnistes sont-ils parvenus à dépasser l'anticolonialisme sous sa forme tiers-mondiste, qui était très à la mode dans les années 60-70, qui revient d'ailleurs à la mode sous une forme de néo-tiers-mondisme, et à dépasser le marxisme?
Bon, j'ai envie de te dire qu'il y a sans doute Patrick Marcolini qui pourrait te répondre beaucoup mieux que moi. Je vais te répondre indirectement. Je vais te dire pourquoi j'ai écrit ce texte et en fait d'où il provient. Quilombo est à l'origine en réalité d'une réflexion, d'un premier texte qui avait été écrit il y a longtemps dans Article 11, suite à l'exposition de Bord à la BNF. Je crois que peut-être certains, voilà, tout à fait, certains connaissent dans la REF, c'est bien. C'est que, effectivement, en voyant l'exposition qui était intéressante, après, voilà, on peut faire tel ou tel commentaire, telle ou telle critique, il m'était apparu, j'ai eu une discussion avec les commissaires de l'exposition, c'était ici, hein, il y avait une présentation, hein, tu t'en souviens. Mais juste attirer l'attention sur le fait qu'il y avait quand même quelque chose de particulier, c'est que même dans ce petit groupe qui était l'international situationniste, en fait, il y avait 1, 2, 3 Algériens. Ouais. Pour sortir un peu de l'IS, qui est comme un objet très particulier, mais j'y reviens dans un instant. En réalité, c'est un peu l'histoire du mouvement révolutionnaire, des avant-gardes de ce pays. C'est que, voilà, sur bizarre, tu trouves toujours 1, 2 Algériens, 3, 4, ou parfois plus. Ils ne sont jamais identifiés comme tels. Ce qui montre bien, quand même, à rebours de ce que certains pouvaient penser, ou peuvent dire aujourd'hui ou hier, peu importe, c'est qu'ils font partie de l'histoire sociale, politique, culturelle et révolutionnaire de ce pays. Alors parfois, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la barricade, c'est vrai, il y en a eu, c'est vrai. Mais on les a souvent retrouvés du beau côté de l'histoire. Une des choses, c'est défendre cet héritage-là. C'est défendre, je dirais, une certaine conception de l'internationalisme, de la critique sociale et du dépassement de l'ordre établi, tout simplement, de son renversement. Donc, là aussi, petite séquence autopromo pour valoriser un travail très ingrat. Moi, une des choses qui fait partie de ma gymnastique intellectuelle, c'est que depuis, je crois, presque 15 ans, peut-être 20 ans maintenant, je m'amuse à retranscrire des textes justement qui documentent justement cette histoire-là de l'internationalisme et des connexions.
Tu as un blog?
Oui, voilà, j'ai un blog, j'ai un Skyblog.
Lisez-le.
Mais ça fait partie vraiment de ce qui va alimenter, c'est-à-dire le fait de chercher, d'aller prendre des revues, soit en bibliothèque, dans des centres d'archives. Voilà, il y a des sites maintenant qui numérisent, alors on peut être critique de la digitalisation à outrance, etc. Néanmoins, ça permet de redécouvrir tout un patrimoine, allez, on va dire ça, tradition, mais révolutionnaire. Et ça permet, à mon sens, de briser certaines représentations un peu figées, un peu caricaturales, en fait. J'ai aussi un peu écrit en opposition à ça, à certains discours, c'est vrai, mais je n'ai pas écrit qu'en opposition. C'est que ça a existé et que ça existe encore, et j'espère que ça existera pendant encore un petit moment.
C'est ça le fond du sujet, parce que toi tu dis ça que c'est un petit truc, mais en réalité c'est le fond du sujet, parce que le nec plus ultra de la théorie critique importée d'outre-mer est présenté comme le summum de l'émancipation. Or, au nom des subalternes et au nom de l'émancipation, on invisibilise l'histoire de l'anticolonialisme qui s'est faite ici, par des ouvriers. Et c'est ça le fond de ton travail. Et c'est pour ça que c'est important de mettre ça en valeur.
Alors, là aussi, hein, je ne veux pas non plus être alimenter une forme de mythologie, etc. Parce que toute expérience révolutionnaire, toute avant-garde a ses limites. Déjà de par sa taille, sa surface, même si je crois qu'entre la surface en termes d'individus qui ont été regroupés ou organisés, et puis l'écho que ça a eu et que ça peut encore avoir aujourd'hui, c'est intéressant en tout cas de pointer ça. C'est sûr qu'il y avait une volonté de ne pas alimenter des illusions. C'est ça qui m'intéresse aussi. Notamment sur où les potentialités révolutionnaires de certains mouvements nationalistes. Alors certes, anticolonialiste, évidemment, je veux dire, la question n'est pas de savoir s'il faut être anticolonialiste ou pas. Je crois qu'ici, on est tous d'accord là-dessus. Et puis, après, pour revenir sur les débats très, très contemporains, en fait, très présents, le fait de dénoncer une injustice, de dénoncer une occupation, de dénoncer une expropriation, etc., je crois que c'est le béaba. Donc moi, pour ma part, peut-être que parfois, pour des lecteurs qui ne sont pas familiers avec une certaine tradition critique, peut-être qu'il faut commencer par dire ça. Oui. D'ailleurs, c'est pourquoi, dans l'avant-propos, je recommence aussi, ou plutôt je commence par poser quand même certaines évidences, qui pour moi sont des évidences, mais pas forcément pour tout le monde. Mmh. Tu sais, quand tu, dans certains milieux, tu arrives et tu critiques certaines personnalités, certaines icônes même, qui sont associées à la lutte anticoloniale, à la critique de l'impérialisme, assez rapidement, on va t'associer au camp d'en face.
Oui. Quelle personne ?
Bon, par exemple, si je donnais l'impression de ne pas être emballé à 100% par Fanon, même si j'ai du respect pour Fanon pour plein d'aspects, hop, on va me mettre dans une case. Si par hasard je dis, Albert Camus, c'est pas vraiment le salaud que certains ont voulu décrire dans un bouquin que je ne nommerai pas.
Oui.
D'accord.
C'est un livre par exemple. Éditions La Fabrique.
Non, mais je cite pas de nom d'éditeur, je cite pas de nom d'auteur. Mais je veux dire, c'est au-delà d'un livre. Hein. C'est le livre, en l'occurrence, il concentre quelque chose. Quelque chose qui est présent, c'est vrai, dans certains discours, dans certaines analyses qui ne sont pas complètement nouvelles. Ce qui est nouveau avec ce livre Oublier Camus, c'est que ça va quand même un peu plus loin. Dans la malhonnêteté intellectuelle, ce que je me suis plu pour un camarade à non seulement à relire et aussi à démonter. Et pour être tout à fait honnête, je ne m'attendais pas à une telle supercherie. C'est-à-dire qu'autant, voilà, vous savez, il y a les débats sur le syndrome de l'imposture et tout. Après, il y a des vrais imposteurs aussi au niveau intellectuel. Ça existe. Il y a des vrais faussaires. Il y a des gens qui volontairement vont déformer des citations. Et parfois, ils le font à mauvais escient. Parfois, c'est même pour être sympa. Hier, on m'a envoyé une retranscription d'un bouquin de quelqu'un qui me cite. Mais en fait, je dis, mais j'ai jamais dit ça. Ça me semblait bizarre. J'ai vérifié. En fait, j'ai jamais dit ça. Mais c'était pas méchant de sa part. C'est qu'il voulait me faire un clin d'œil. Et en même temps, la citation, elle est complètement bancale. Mais c'est des choses qui peuvent nous arriver aussi. Après, bon, j'ai un côté un peu. J'essaie de faire attention quand je cite. C'est mon côté un peu rigide. Hein. On a tous des travers. Bon. Là, en l'occurrence, sur Camus, même s'il y a des vrais débats à avoir sur Camus, il y a eu un beau colloque qu'il y a eu l'année dernière à l'Institut du Monde Arabe, notamment, où on a échangé sur des questions de fond. Mais encore une fois, moi, mon souci, c'est, j'ai un rapport presque sacré, même si le sacré, pour moi, ne veut pas dire grand-chose, à la vérité historique, au fait, en réalité. Là, certains le savent, à une époque, quand on parlait de vérité, je crois, à l'époque, quand j'étais en thèse, où j'étais encore étudiant, les universitaires, ils souriaient quand ils entendaient le mot vérité, ça les faisait rire. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelait la post-vérité, etc. Moi, je pense que c'est important, en fait, de chercher la vérité, la dire, le rapport à la justice aussi, à une forme de rigueur intellectuelle.
L'anticolonialisme aujourd'hui, il est un peu cité, il est cité partout, hein. C'est vraiment quelque chose dont on entend parler un peu à toutes les sauces, j'allais dire. Comment aujourd'hui on peut le faire partager au plus grand nombre? Parce que, comme tu disais, il y a des colloques et tout ça, mais finalement, on a du mal un peu à s'y retrouver, parce qu'il y a une histoire de camp aussi, c'est-à-dire il faut un peu choisir son camp. Comment on fait justement quand on fait comme toi ce livre, comment on s'y retrouve du coup, j'allais dire?
Dans ce que j'ai essayé de faire, et je vais essayer de pas toujours utiliser les mots en isme, etc. Mais bon, on va quand même les utiliser. Ce qui m'intéressait du côté de l'international situationniste, encore une fois, sans alimenter de mythes, sachant que c'était pas les seuls à le faire, d'accord? Il y avait d'autres groupes, d'autres formations qui, par exemple, prônaient plus facilement le soutien critique plutôt que le soutien inconditionnel, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, j'explique, notamment, même si je ne voulais pas forcément parler de la question algérienne, au moins pour un exemple, ça ne sera pas trop grave ce soir. Quand est déclenchée l'insurrection armée, au 1er novembre 1954, vous allez avoir des groupes, notamment trotskistes, qui vont, faute d'avoir leur propre organisation en Algérie, ou alors avoir un relais conséquent dans la diaspora ouvrière en France, eh bien, ils vont se mettre à la remorque, hein, pour le dire rapidement et pas vulgairement, d'organisations nationalistes. Donc ce ne sont pas des organisations socialistes, ouvrières, je ne sais pas quoi. Ils vont estimer qu'il faut les appuyer sans les critiquer, sans critiquer leur orientation qui est nationaliste, étatiste, bourgeoise, petite bourgeoise, bon, peu importe. Il y en avait d'autres qui estimaient, par exemple, c'est notamment le cas des communistes libertaires, qu'il fallait évidemment, au nom de l'anticolonialisme, apporter une aide, notamment matérielle ou autre, mais essayer, dans la mesure du possible, de développer une analyse ou même de pousser à une organisation qui ne soit pas alignée sur les nationalistes. C'est par exemple, encore une fois, là on est dans la... C'est pas de la petite histoire. Pour moi, au contraire, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, extrêmement important et qui éclaire aussi des enjeux très, très présents. Par exemple, la Fédération communiste libertaire, mais c'est quand même intéressant ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont essayé de développer une organisation, je ne sais pas si certains la connaissent, en Algérie, qui s'appelait le Mouvement libertaire nord-africain. Ça veut dire qu'ils estimaient qu'il fallait avoir un relais qui défende le communisme libertaire dans les colonies. C'est quand même extrêmement audacieux. Hein, c'était une organisation, on dirait aujourd'hui, interconfessionnelle ou interculturelle. Il y avait des juifs, comme Fernand Doucan. Il y avait des personnes d'origine européenne, comme on disait à l'époque. Et puis, des personnes musulmanes, comme on disait aussi à l'époque. Donc, déjà, c'est assez intéressant, sachant que les organisations nationalistes algériennes, en général, elles étaient réservées à ce qu'on appelait les musulmans. Bon, le problème, c'est que cette organisation, le MLNA, va complètement se disloquer du fait de la répression. Mais toujours est-il que... Il y a eu plusieurs options en réalité pendant l'insurrection ou la révolution algérienne entre ceux qui ont appliqué donc soutien conditionnel, soutien critique, et puis il y a ceux qui estimaient que c'était pas leur combat en fait, que c'était juste une lutte entre bourgeois autoritaires, etc., et puis qu'il n'y avait pas grand chose à faire. D'accord, je caricature à peine. Moi je suis pas dans l'indifférence par rapport à ça, pour revenir à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une question coloniale pour la France. Je dirais ne serait-ce que pour la Nouvelle-Calédonie Kanaky. Et quand je dis ça, c'est au minimum, hein, d'accord ? Pour moi, la question coloniale, elle se pose évidemment dans les Caraïbes. En Corse aussi, elle est posée aussi par certaines personnes comme une question coloniale. Moi, je suis pas indifférent à la façon de poser ce problème-là. Là où, par contre, j'ai pu avoir des réticences, c'est quand on va, de façon un peu caricaturale et simpliste, dire la question des banlieues, c'est une question coloniale. C'est pas exactement ça. Ça relève d'autre chose, en fait. Ça relève d'autre chose. Il peut y avoir un imaginaire, etc. Il peut y avoir... On peut réfléchir à un moment donné sur telle ou telle institution. Mais là, on est dans une autre question qui a à voir avec, en particulier, eh bien, la gestion ou le mauvais traitement réservé aux classes populaires domestiques, d'une certaine manière. Même s'il y a quand même une spécificité dans un racisme qui, lui, va dans ses éléments de langage, dans sa virulence, puiser justement dans le racisme colonial. Bon, mais là, c'est une discussion à part entière. Aujourd'hui, il y a une question coloniale qui est posée à la France, mais pas qu'à la France. Hein. Là, je parle de la France, mais je pourrais parler de ce qui se joue au Proche-Orient et ailleurs, évidemment. Je ne veux pas faire de préconisation ce soir, mais dans ce que j'ai toujours essayé de faire ou de relayer aussi, c'est d'être du côté de ceux qui, à la fois, refusent le colonialisme, l'exploitation, le racisme, mais sans m'aligner et sans cautionner, sans légitimer à la fois les organisations et les formes de lutte ou de résistance qui, à mon sens, sont autoritaires ou n'amènent pas de solutions positives. Voilà, tout simplement. Après, je sais pas, hein, si des gens aussi ont des recettes magiques ou etc., mais ou des préconisations ou ont des désaccords, moi je les écoute bien volontiers. Moi je sais que ce qui a pu me chiffonner aussi, ou en tout cas là où je me suis pas reconnu complètement, mais avec beaucoup d'autres, c'est quand on va faire l'éloge, encore une fois, d'organisations réactionnaires qu'on va faire passer pour étant de la résistance. Bon,
chose qui arrive notamment à gauche.
Ah ouais, non, mais là je parle de la gauche, parce qu'il n'y a pas trop d'anticolonialistes de droite. Alors, non, mais il y en a eu, il peut y en avoir. D'ailleurs, quand tu dis que l'anticolonialisme est partout, je m'étais amusé aussi, alors, dans le cadre de mes présents travaux, mais ça transparaît aussi dans certains des textes. Là aussi, on est à la fois dans les marges, mais malheureusement, c'est des marges qui aujourd'hui débordent. À un moment donné, vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle droite va faire feu de tout bois et s'approprier des figures qui n'ont rien à voir avec la mouvance conservatrice. Alors ça va être le cas pour Debord, hein, ça va être le cas pour Gramsci, mais ça va être le cas aussi pour Fanon, d'accord ? C'est-à-dire que Alain de Benoist va, avec sa grande malhonnêteté intellectuelle, essayer de reprendre Fanon à son compte, pour, notamment dans les années 70-80, développer ce qu'il appelait un tiers-mondisme de droite. Donc bon, c'est là aussi où on se rend compte que les intellectuels sont capables de toutes les gymnastiques possibles, de toutes les appropriations fallacieuses, et c'est impressionnant à droite, à gauche aussi, ça l'est un petit peu, mais c'est pas forcément de ce côté-là que j'ai envie de taper ce soir. Thank you.
Et on continue avec la présentation du nouveau livre de Nejib Sidi Moussa, Le spectre du colonialisme.
Mais je voudrais savoir si Gabel vient, tu l'as découvert il y a longtemps, parce que je ne me souviens pas en avoir parlé avec toi, et je trouve quand même que c'est une bonne idée, en parlant du racisme, alors on pourrait aussi parler de fausse conscience, parfois, à mon avis, dans le militantisme, dans nos milieux aujourd'hui, là, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, pour un peu utiliser, je le dis très vite, sur les termes, sur ce qu'il appelle la spatialisation de la pensée. Déjà, Achille Mbembe, je crois, le politologue, là, le disait un peu dans un de ses livres, on a l'impression quand même, en France, ailleurs je sais pas, d'une espèce de décalage quand même, mais y compris parfois chez des camarades, hein, d'une espèce de décalage entre une France qui n'existe plus, mais sauf dans les têtes, et le pays réel. Il dit un moment un truc comme ça, Achille Mbembe, d'en sortir de la grande nuit. En France, on a comme l'impression qu'on ne tient pas compte de l'immigration postcoloniale qui donne son visage à la France telle qu'elle est aujourd'hui, quand même. Et une espèce de décalage, effectivement, entre le pays réel et le pays fantasmé. Alors toute la droite, effectivement, on a l'impression que ça accroche à ça aujourd'hui. Comme si on avait extrêmement de mal à penser la France d'aujourd'hui dans sa diversité, comme si le pays avait du mal, une partie en tout cas, à se réconcilier avec cette France-là.
Bon, Gabel, je l'ai lu à plusieurs étapes, plusieurs moments de mon parcours.
C'est qui, Gabel ?
Alors, Joseph Gabel, sociologue, psychiatre. Livre que L'Échappée a eu la bonne idée de rééditer. Voilà, La fausse conscience, voilà, ce bouquin. En fait, voilà, j'ai d'abord été sollicité pour faire un texte qui se serait appuyé sur La fausse conscience, donc le livre de Gabel, pour analyser certaines formes de l'antiracisme politique. Donc j'ai dit, bon, pourquoi pas, donc je vais relire Gabel, mais en lisant ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent, ce qu'il dit sur le racisme. Et puis, en tournant les pages, j'ai quand même été un peu surpris. Il y a des gens à qui je ne peux pas mentir, donc ils savent, parce que c'est aussi le produit de discussion, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, là encore, il n'y a pas de texte, même si c'est signé d'une personne, sans échange, sans connivence, sans camaraderie, sans amitié, sans les moments informels, soit de ce type de rencontre ou autre. Justement, on va attirer l'attention sur des références qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas la science infuse, parce que parfois on est aussi dans des objets un peu circonscrits. On a aussi nos petites marottes et nos petites obsessions qui nous font parfois perdre justement les enjeux qui sont beaucoup plus fondamentaux ou autrement fondamentaux. Donc c'est pour ça que c'est important dans la conjoncture actuelle de maintenir des espaces, des lieux où il y a de la convivialité, où il y a de l'échange et où il y a de la contradiction. Voilà, c'est ce qu'il va falloir défendre, à mon avis. Donc Gabel, plus je tourne les pages sur le racisme, je me dis, mais c'est un peu bizarre quand même ce qu'il dit. C'est un peu bizarre. Et en fait, le truc bizarre, c'est que tout simplement, c'est quelqu'un qui est complètement européo-centré. C'est quelqu'un qui va, mais comme d'autres plus tard, c'est ça qui est intéressant, qui va passer de la critique du racisme à la critique de l'antiracisme. Par exemple, il va d'abord s'intéresser à la situation des Afro-Américains, et après, comme certains, il va estimer qu'ils sont dans une dérive dangereuse, antisémite, etc., etc., et il va voir que les aspects négatifs ou caricaturaux. Et c'est aussi quelqu'un, et c'est ça qui est assez perturbant, parce que son livre sort, donc la première édition, La fausse conscience, en 1962, sachant que c'est pas un livre sur le racisme, hein, d'accord, mais il y a quand même un chapitre et beaucoup de pages qui traitent de ça. En 1962, édition de Minuit, collection Arguments, c'était celle d'Edgar Morin. Et en fait, la question coloniale, elle apparaît pas. Tout simplement, la question donc, et algérienne n'apparaît pas. Et c'est quand même très bizarre, quand même. C'est quand même très bizarre qu'en 1962, un intellectuel de gauche ne parle pas du tout de la question algérienne. D'autant que, au même moment, je suis allé retrouver des textes qu'il a écrits sous pseudonyme, notamment dans la presse socialiste, mais pas que. Et on sent qu'il y a quand même une orientation qui est assez particulière, notamment c'est quelqu'un qui était très sioniste, d'accord, c'était une grande cause de sa vie. Et il y a un lien évidemment entre son engagement sioniste et la manière dont il va appréhender le reste du monde en fait. Le reste du monde, donc noir, arabe, etc. Souvent Alors j'ai trouvé quand même des expressions qui, en fait, pourraient tout à fait caractérisées comme étant, on peut dire, du racisme, hein, même voire même une phrase qui est de l'homophobie sur un autre sujet, ce qui est assez déroutant, ce qui est assez surprenant quand même, de la part de quelqu'un qui justement dénonçait la fausse conscience, etc., chez ses contemporains ou chez ses prédécesseurs. Mais en fait, c'est pas qu'une question de Gabelle en réalité. Moi, j'ai pas de compte à régler avec lui, parce que là aussi, c'est quelqu'un que dans une certaine mesure et dans une bonne mesure, je respecte et que je trouve intéressant. Là aussi, il faut toujours être capable de faire la part des choses. Mais en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans l'histoire intellectuelle française, justement. Il y a plein d'intellectuels, on ne va pas faire la liste, ou plein d'organisations, ou plein de personnes, en fait. Au-delà des universitaires, des militants, je veux dire, c'est juste des individus qui vont avoir une grille de lecture, qui vont être pris dans une idéologie, dans des affects, qui vont tout simplement les amener à voir les choses de façon très binaire, très manichéenne. Et cette grille de lecture, elle existe chez plein de gens. Hein. Certains vont entendre le mot juif, ça va être soit plus, soit moins. D'autres vont entendre le mot arabe, ça va être plus ou moins. Et c'est des choses qui sont ancrées dès l'enfance, dès la socialisation primaire, etc.
Pardon ? Mais juste recontextualiser.
Oui.
Ben, quand il fait ça, sa problématique générale et sa formation, c'est une analyse des représentations comme schizophréniques. Donc, tous les mots qu'il emploie, qui sont des perceptions de l'autre, d'un certain point de vue, ils sont à prendre dans ce contexte-là. C'est pas des jugements qui prend à son propre compte pour dire le noir est tel, le juif, etc. Ce qui est dans ces passages-là, pour autant que j'en ai la mémoire vive dans ma tête, là, l'exemple par excellence de la détestation de l'autre, c'est d'abord l'antisémitisme. Et tout ça sur la caractérisation héritée de l'histoire nazie, qui est encore récente. Après, effectivement, il passe à les questions noires, le noir, en particulier aux États-Unis. Et voilà, c'est les deux exemples. Il ne se préoccupe pas, dans mon souvenir, à ce moment-là, de contexte, on va dire, géopolitique ou internationaux. On peut éventuellement le regretter, mais ce n'est pas la problématique de son analyse à ce moment-là.
C'est un texte qui est apparu dans une revue, qui n'est pas forcément accessible. L'enjeu, c'était aussi de mettre à disposition des textes qui ne circulaient pas ou pas aux bonnes personnes. Là, tu parles de la fausse conscience, tu parles du bouquin. Mais justement, moi, je suis allé chercher tous ces textes, tous ces autres textes. Là, c'est là que tu comprends qu'il y a une cohérence, en fait. C'est un peu décevant. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a des gens qui peuvent... Non, mais justement, tu auras l'occasion de lire. J'en ai retranscrit certains sur mon blog, tu verras. Mais qui sont intéressants, hein, pour partie. Mais j'ai pas retranscrit ceux qui étaient les plus... les moins pertinents. Donc, mais là aussi, ce n'est pas une question individuelle, c'est une tendance dans l'histoire intellectuelle et politique française, en rapport à la question coloniale, en rapport à la question du sionisme, en rapport à la question de l'impérialisme aussi, en fait. Et je ne te cache pas qu'une des motivations aussi, à la fois du livre, mais de la façon dont j'ai écrit ce texte, et aussi les derniers en réalité, hein, c'est quand une fois il y a une chronologie, on est aussi influencé par le contexte. Je crois que les débats, notamment quand j'amorce mes premières critiques du courant décolonial, il y a quand même un petit moment déjà, on n'était pas exactement dans le même climat qu'aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, il y a eu ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle la crise franco-algérienne. Deux, il y a eu le contexte ouvert, même si ça commençait un petit peu avant, par la dissolution de l'Assemblée nationale. Et on a vu aussi en rapport aussi avec la concentration des médias, Bolloré, etc., une nouvelle configuration aussi, qui va servir de caisse de résonance, justement, à une parole violente, agressive, raciste, et qui, justement, convoque les spectres du colonialisme, là, pour le coup. Donc, ça, c'est quand même nouveau. On ne peut pas dire qu'on était dans la même configuration il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou même il y a 20 ans, quand je commençais à travailler sur ces questions-là. Et puis aussi, il y a octobre 2023 et les suites. Et ça, là encore, je pense qu'après, on a chacun notre sensibilité, mais je crois qu'on n'a pas pu s'extraire. On ne peut pas faire comme si ça n'a pas changé la manière de poser toutes ces questions-là. De la même manière, je le dis un petit peu dans l'avant-propos, des personnes avec lesquelles il était possible, jusqu'à un certain niveau, d'avoir une discussion, d'avoir un échange courtois, comme ça peut exister, hein, comme ça peut exister à l'université, comme ça peut exister dans certains milieux où on débat, où on discute, d'accord, où il n'y a pas toujours d'enjeux de vie ou de mort, mais on peut discuter. Ben aujourd'hui, c'est plus possible pour 90%, et c'est pas que je déplore, c'est qu'en même temps, ça a permis de révéler quelque chose qui était soit enfoui, soit qui n'était pas assumé. La guerre, malheureusement, elle permet de dévoiler aussi beaucoup de choses. Hein. Elle permet de déchirer aussi un voile d'hypocrisie, de politesse, de convenance. Et elle donne le libre cours aussi à des pulsions, à des délires, hein, de part et d'autre. Mais là, ça a plutôt tapé d'un côté. Hein. Faut quand même le reconnaître. Donc, il y a ça aussi qui a changé. Je crois que j'étais aussi obligé, quand je me suis penché sur d'autres questions, d'autres personnalités aussi, d'autres figures, bah de prendre en compte ça. Parce qu'on parle aussi, à un moment donné, à un moment, à un contexte, et à des personnes qui sont travaillées aussi par, soit par la propagande, soit par des événements qui les marquent, et par des événements aussi. Donc c'est aussi pourquoi, outre voilà, les quelques figures que tu as mentionnées tout à l'heure, c'est vrai, bon, j'avais travaillé sur Debord il y a très longtemps, et un clin d'œil à Camus, un clin d'œil à Fanon. Là aussi, moi je pense que, et c'est un peu dommage, ce sont deux figures qui, à mon sens, sont extrêmement importantes dans la culture. Même s'ils n'ont pas su le itinéraire, ça c'est le moins que l'on puisse dire, n'ont pas su le itinéraire, ils ont pas trouvé un peu plus, je crois, on peut le dire, chacun est responsable aussi, néanmoins d'être capable de mesurer aussi ce qu'ils ont. Et le contexte également m'a amené à me pencher sur deux personnes qui, j'ai pu déjà plus le dire ou l'écrire par ailleurs, mais il y a au moins un chapitre et un texte conséquent qui est consacré à cette personne. C'est Maxime Rodinson aussi. Maxime Rodinson, mais je suis sûr que dans la salle, les personnes qui pourront en parler bien mieux que moi, bah, c'était un des génies du XXe siècle. On va dire orientaliste, même si orientaliste aujourd'hui ça peut avoir une connotation un peu étrange. T'as un polyglotte, quelqu'un qui vient d'un... Pardon ?
Un arabisant.
Pas que, c'est un polyglotte, je crois qu'il maîtrisait, je crois, une dizaine, vingtaine de langues. Quelqu'un qui est, il le dit lui-même, qui a été stalinien pendant une partie de sa vie, donc qui a aussi commis quelques bévues. Il a reconnu un petit peu quand même après.
Des frais d'extraction très modeste, il faut le souligner, c'est important.
Milieu juif, lui-même athée. Et c'est une des personnes, pas la seule évidemment, mais une des personnes qui va contribuer à sortir la question palestinienne des limbes et des marges, en fait. De par ses interventions, il va parfois servir de porte-parole aussi dans certains débats pour les Arabes qui voulaient pas débattre avec des Juifs ou des Israéliens, etc. Qui va produire, notamment en rapport avec le monde musulman, le monde arabe... des textes qui, pour la plupart, je dirais pas tous, parce que j'ai pas lu tous ces textes, et je sais pas si quelqu'un a déjà lu ces textes, dans sa notice du métro, on dit qu'il aurait écrit 2000 textes. Je sais même pas s'il y a une bibliographie à jour de ses œuvres. Ça a été tellement dispersé, etc. Et il a fait quelques recueils, sur le tard, quelques recueils, qui sont lumineux, qui, à mon sens, possèdent encore une valeur et une pertinence toujours aussi vive. Donc, encore une fois, je ne dis pas que je marche sur ses pas, il est d'un autre niveau, d'une autre catégorie, d'une autre génération, d'une autre époque, mais, comme je l'ai dit, je le répète, c'est une des personnes, avec Pierre Vidal-Naquet, qui, notamment depuis octobre 2023, à mon avis, nous manque cruellement, parce qu'ils étaient capables de dire des choses, d'analyser des choses, et ils avaient aussi une intégrité morale, qui peut-être aussi manque dans le débat public, et puis, allez, on va dire à gauche. Sont restés des hommes de gauche jusqu'à leur mort, quoi. J'ai écrit un texte pour justement ceux qui, parmi les jeunes générations, n'ont pas entendu parler de lui, même s'il y a eu quelques rééditions de certains. Voilà, tout à fait. Bon, c'est quelqu'un aussi qui a été très lucide très tôt en rapport à la question algérienne, mais pas que, sur la question iranienne aussi. Il y a des choses qui sont extrêmement pertinentes, qui parfois aussi pourraient chiffonner certains anti-impérialistes, mais un peu caricaturaux, qui s'est aussi pris des volets de bois vert des deux côtés de la barrière. Il a été accusé d'être antisémite, un juif antisémite, et de l'autre côté d'être un anti-arabe ou un anti-musulman. Alors je dis pas que c'est ça qui me l'a rendu plus sympathique, mais Bon, voilà, c'est quelqu'un aussi qui a tenu la barre, qui, encore une fois, a tellement produit qu'à mon avis, on n'est même pas encore à la redécouverte et à la juste réévaluation de son œuvre, voilà, dans le rapport à la critique de l'impérialisme, de la religion, des nationalismes, etc., etc.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel et on continue avec la présentation du nouveau livre de Nejib Sidi Moussa, Le spectre du colonialisme.
Comme je l'ai dit, c'est un livre qui regroupe des textes qui ont été écrits au cours des 10-15 dernières années, qui traitent tous de la France, de l'histoire culturelle, politique et sociale, où vous allez trouver à la fois des trajectoires ou des portraits d'intellectuels ou de militants, en rapport avec la question coloniale ou post-coloniale, et où vous allez trouver aussi des études critiques de groupes ou de courants. Donc c'est ça, vous verrez la table des matières, comment elle est organisée. Mais voilà, je parle de la France, je parle de la question du colonialisme, je parle de ses enjeux actuels, comment ça va être réactivé, comment cette question elle va être niée par certains ou placée au second plan, comment elle va être au contraire mise en avant parfois par certaines individualités ou certains groupes, mais de façon caricaturale. Et surtout, c'est qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de la France ?
Sur le spectre du colonialisme, moi je vois surtout, en tant que personne plus engagée depuis longtemps, toutes les prémices du colonialisme, les prémices idéologiques du colonialisme à droite sont intactes. Par exemple, la négation de l'histoire algérienne, la négation de l'histoire franco-algérienne avant la colonisation, les rapports entre la Régence et Louis XIV, cette espèce d'évidence commune qui nous lie depuis très longtemps, sont totalement ignorées par la droite, puisqu'on va jusqu'à dire que l'Algérie n'existait pas, hein, est une création française, etc. Et je me demande si cette ignorance qui conforte l'idéologie colonialiste, elle n'est pas aussi à la racine, à gauche, d'un certain nombre de malentendus, de mauvaises interprétations et, je dirais, de dérives.
C'est les discussions qu'on peut avoir entre spécialistes, où on est souvent atterré, alors de l'ignorance, mais c'est un peu facile. Genre quand on est toujours le nez dans une question, dans un sujet, parfois il y a des remarques qui peuvent nous déstabiliser, en fait, nous dérouter. Bon, en même temps, on n'est pas obligé d'être spécialiste de tout, je veux dire, le grand public ou même le public cultivé. On peut un peu savoir. Dans les années 70, jusque dans les années 80, pour les échanges que j'ai pu avoir, pour les recherches que j'ai pu faire, il y avait, je dirais, quand même un certain socle de référence commune, partagée, parce que soit les événements n'étaient pas si loin que ça, soit parce qu'on est encore en contact avec des gens qui ont vécu les choses, avec des gens qui ont été... Alors si on repart de l'Algérie, hein, même si ce n'était pas forcément le but de ce soir, mais en même temps, c'est impossible de parler du colonialisme sans parler de l'Algérie en France, en tout cas, parce que des gens sont allés en Algérie et sont revenus, parce que dans les organisations, dans les groupes, dans les syndicats, etc., ou dans les quartiers, y a des gens aussi qui en viennent. Donc ça fait partie, je dirais, d'un quotidien ou d'une routine. Parce qu'aussi, on a tendance à l'oublier, il y avait des livres, des best-sellers aussi, qui parlaient de ça. Je pense notamment à la série de... Pardon.
Courrières.
Oui, de Courrières, pardon, merci. Ouais. De Courrières... D'ailleurs, des magazines aussi, Historia Magazine, etc. Bon, hein, sans dire que c'était le nec plus ultra du point de vue de l'histoire. Néanmoins, ça faisait partie du paysage. Il y a eu plusieurs générations qui étaient familières ou qui connaissaient, qui avaient entendu parler, qui avaient une certaine connaissance de ce qui s'était passé. Avec après des grilles de lecture aussi, très fortes, très marquées, selon les groupes, selon les chapelles, etc. Et ça s'est un peu délité quand même. Voilà. Mais c'est un peu normal. parce qu'à la fois, on a avancé dans le temps, il s'est passé d'autres choses en France et dans le monde, parce qu'aussi, il y a eu un délitement du point de vue organisationnel, donc ce qui aussi entretenait une mémoire des anciens militants ou des grands exploits de la lutte anticoloniale. Donc, dans la transmission, c'est apparu quand même un peu plus délicat, un peu plus difficile, ce qui fait que certaines personnes, à partir des années 2000, ont eu tendance à redécouvrir, ou comme si elles repartaient de zéro, et parfois, elles ont, dans cette redécouverte, qui est saine, hein, cette redécouverte, ils l'ont fait en reprenant avec eux ou avec elles des illusions qui avaient été soit corrigées, ou en tout cas avec lesquelles il y avait des objections qui avaient été formulées, en tout cas, dans certains milieux. Il y a une forme de résurgence d'un certain anticolonialisme un peu campiste, caricatural. Tu parles de néo-tiers-mondisme. Sans doute, il y a à voir avec ça. Et en même temps, quand on redécouvre, c'est pas si grave que ça. En tout cas, si il peut y avoir des moments de discussion, c'est pas si grave que ça. Mais là aussi où je te rejoins, c'est que s'il y a un courant, et ça, je l'ai beaucoup plus montré dans Histoire algérienne de la France, mais aussi dans quelques pages de ce livre, s'il y a bien des familles politiques où, justement, il y a, un caractère obsessionnel de la tradition, de la mémoire, et c'est bien dans les différentes chapelles de la droite et de l'extrême droite, qui, non seulement sont bouffées de ressentiment, mais surtout ne regrettent rien. Je vais pas chanter la chanson, mais ne regrettent rien. En réalité, c'est le produit d'un travail qui n'a jamais cessé, en fait, depuis le délitement de l'Empire. C'est quelque chose qui est assez impressionnant. J'ai déjà dû donner cette anecdote à certains, mais j'ai un ami bouquiniste, par exemple, qui m'a raconté qu'il voyait beaucoup de jeunes aller chercher des vieux bouquins, mais c'était beaucoup de jeunes qui n'étaient pas des camarades et qui allaient justement chercher des livres qui étaient Algérie française, impérialiste, etc., etc. Donc, il y a un travail extrêmement fort de l'autre côté de la barricade, du point de vue de l'histoire, de l'entretien de mythes, parce qu'ils ont aussi leur héros, ils ont aussi leur martyr, hein, même si ça peut paraître complètement délirant pour nous. Hein, il suffit aussi de voir le nombre de stèles, de plaques, etc., dans certaines localités, à la mémoire d'anciens terroristes de l'OAS. Alors, il ne faut pas voir que cet aspect-là. On m'a aussi dit, lors d'une rencontre il y a quelques mois, qu'il faut aussi mesurer le fait que il y a eu, au cours des dernières années, beaucoup de plaques également autour du 17 octobre 61. Donc ça veut dire aussi qu'il y a autre chose qui se joue dans la société. Donc il faut, notamment quand on parle de la question coloniale, il faut voir les deux aspects. Donc pas celui qui nous inquiète le plus, qui nous inquiète à raison, hein, c'est tout à fait normal, mais il faut aussi voir ce qui se fait de l'autre côté. Et je pense que c'est une dynamique sur laquelle, me semble-t-il, on peut s'appuyer. Ouais. On n'est pas les seuls à s'intéresser à cette histoire-là, quoi.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.